Bonjour tout le monde. Eh bien oui, ce matin, Isabelle prend une petite journée pour prolonger le long week-end, mais elle sera de retour demain. Alors, j'ai le plaisir d'être avec vous pour les deux prochaines heures. Ce matin, à l'émission, trois sujets qui vont vous intéresser, j'en suis sûre. On va se demander dans la deuxième heure si on s'occupe assez des jeunes de notre monde, les ados qui vivent, vous savez, des moments tellement secouants, des moments brassants. Est-ce qu'ils ont toujours un endroit, un bon endroit où aller, des gens à qui se confier? Connaissez-vous des manipulateurs, des gens que vous pensiez adorables, gentils, délicieux, qui se transforment en monstres de contrôle, qui vous font faire des choses que vous ne vouliez absolument pas faire, qui vous isolent des autres aussi? Mais d'abord, dans la première heure, je vous pose une question. Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous? Est-ce que c'est difficile pour vous de prendre des décisions sans poser des questions à 50 personnes autour de vous? Est-ce que vous êtes souvent inquiet ou inquiet à l'idée de ce que les autres pensent de vous, de vos choix? À l'ère des médias sociaux, c'est sûr qu'on est inondé des états d'âme de tout le monde, que ce soit sur un film, sur un resto, un spectacle. On vous dit même parfois ce qu'on pense de ce que vous venez d'écrire. Ça n'a pas de fin. En fait, Facebook n'a rien inventé, vous savez. Ça fait longtemps qu'on se préoccupe souvent beaucoup trop de ce que pensent les autres. Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous? Mes invités, Bernard Motulski, titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM. Bonjour Bernard Motulski.
Bonjour.
Geneviève Saint-Germain, journaliste et auteure. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Et Patrick White, éditeur et rédacteur en chef Huffington Post. Salut Patrick.
Bonjour.
Je commence par cette phrase, moi, qui m'avait fait bien sourire, que j'avais entendue en anglais. Je vais la dire en anglais d'abord, je vais la traduire tout de suite, mais je pense que c'est Oprah Winfrey qui disait ça. Ce que les autres pensent... What others think of me is none of my business. Ce que les autres pensent de moi, c'est pas de mes affaires. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors donc, j'y vais dans l'ordre dans lequel vous êtes assis devant moi. Bernard Motulski, tout d'abord, est-ce que vous vous préoccupez de l'opinion des autres comme telle, quand vient le temps de prendre une décision?
Toujours, mais ça dépend quels autres. Il faut choisir de qui on doit se préoccuper. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons. Hein. On peut toujours aller demander à des gens, on sait qu'ils vont être d'accord avec nous. Donc, à ce moment-là, on va juste renforcer son opinion. On hésite parfois avec ceux qui pourraient ne pas être d'accord, parce que là, ça va nous gêner, ça va nous empêcher de prendre une position. Mais on doit toujours essayer de savoir quelle est l'influence et quel impact les personnes dont on se soucie de l'opinion, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir aussi sur notre vie. C'est votre boss, vous êtes mieux de vous préoccuper de son opinion parce que c'est important. Alors, on doit faire un dosage. Faut pas être obsédé par ça, mais il faut choisir stratégiquement de qui on veut avoir l'opinion et aussi c'est quoi l'opinion. Est-ce qu'on va présenter les choses? Est-ce qu'on va juste essayer de décoder s'il y a des signes, non pas forcément verbaux, la personne ne vous dit pas juste « non, je ne suis pas d'accord », mais on va sentir, vous dit « oui », mais vous allez sentir que ce n'est peut-être pas sincère.
Non, puis dans certains cas, la personne peut aussi répondre avec sa propre vision des choses à elle, qui est peut-être qu'elle ne veut pas ce changement-là pour vous, parce que ça implique un changement pour elle. Geneviève Saint-Germain, est-ce que le jugement des autres compte pour
vous? De moins en moins. Plus on vieillit, je pense, moins ça compte. Les femmes particulièrement, on a été très élevées à se soucier de... très éduquées à se soucier de l'opinion de tout un chacun. Et à se faire des opinions les unes par rapport aux autres aussi. Mais en fait, l'opinion, ça ne parle que de la personne qui l'exprime. Finalement, quand on sait ça, là, on se dit, bof, l'opinion, ça parle de lui. Et l'opinion n'engage que la personne qui parle. On n'est pas obligé de... Ça change absolument rien, finalement. L'opinion que quelqu'un a, ultimement, sur ce qu'on va faire ou ce qu'on doit faire.
Même question. Patrick
White. Je pense qu'à jusqu'à la fin de l'adolescence, moi, j'étais beaucoup plus influençable et perméable à ces opinions-là de mes amis en particulier. Je pense qu'avec l'âge, effectivement, on prend de la maturité. Mais ce qui est important dans notre quotidien, c'est évidemment l'opinion de notre conjoint-conjointe, collègue de travail, les boss, les bons amis proches, le noyau, si on peut dire, comme moi, mes chums de gosses, c'est ce qu'on peut dire. Donc, effectivement, et je pense que c'est amplifié par les médias sociaux.
Ah ben, totalement!
Avec cette espèce de dynamique où on publie quelque chose et là, soudainement, tu as 40, 50, 60 personnes qui réagissent, souvent très fortement. Et là, des fois, on se demande comment réagir. Est-ce qu'on devrait supprimer notre publication pour calmer le jeu? Donc, je pense qu'avec les médias sociaux, ça devient de plus en plus difficile à jauger.
Et je veux qu'on revienne plus en détail sur les médias sociaux un peu plus tard. J'aimerais qu'on commence plus, pas plus large comme tel, mais les communications telles quelles aujourd'hui. C'est c'est là pour influencer l'opinion des gens.
Ben, quand on communique, c'est toujours pour essayer de faire en sorte que les gens pensent un petit peu autrement, voient des choses autrement.
Mais même les grands médias, souvent, c'est là pour...
Pour biaiser complètement l'opinion aussi, pour biaiser complètement les sujets. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends l'opinion publique. C'est quoi, ça, l'opinion publique? Ils peuvent dire oui à une question, mais il y a à peu près 50 sortes de oui dans ce oui-là, puis 50 sortes de non dans l'autre.
Oui, les communications, la pub, tout cet univers.
On l'a vu en campagne électorale. Qu'est-ce que les partis essayent de faire? Ils essayent de changer votre opinion, de vous influencer pour que vous pensiez que ce qu'ils proposent, ce qu'ils sont, est plus intéressant que l'idée que vous aviez au préalable. Au fond, tout ça, ça va s'annuler en bout de piste parce que tout le monde essaye de vous influencer, donc vous allez les choisir. Mais communiquer, c'est essayer de convaincre les autres que vous avez raison, puis de changer leur façon de penser.
Et on n'a jamais eu autant de chroniques d'opinion dans les médias.
Si puis avec les médias aussi.
Journal de Montréal aujourd'hui par rapport à il y a 25 ans, c'est vraiment rendu un journal d'opinion, mais de plusieurs opinions.
Et toutes les
opinions.
Et non d'une
ligne éditoriale en particulier.
Oui. Et toutes les opinions ne se valent pas.
Ah ben absolument. Non, ça va de soi. Patrick White, sur l'élection, d'ailleurs, vous aviez ceci à dire à notre recherchiste que cette fois-ci, l'élection, les gens ont voté selon les sondages, donc se sont fait influencer.
Ben, il y a eu une très forte influence. D'ailleurs, les sondages qu'à un certain moment donné ont donné 7 points d'avance au Parti libéral du Québec, qui a terminé 12 points de pourcentage
derrière. Donc, ils sont trompés, mais quand même. Ils sont trompés.
Je pense qu'il y a eu un gros vote stratégique et il y a énormément de gens qui n'ont pas voté, qui doivent le regretter aujourd'hui.
Bien. Alors, c'est dit. Voilà l'opinion de Patrick White.
Moi, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que même des gens qui n'ont pas voté pour la CAQ, là, sont pas si mécontents. J'ai l'impression que c'est un peu comme...
Écoute,
je sais pas s'il y a tant de gens mécontents. Je trouve que cette élection, les gens n'ont pas l'air ni mécontents, ni contents. C'est ça.
Ça semble avoir fait un peu l'affaire de tout le monde. Parce que sans prendre une décision majeure, on s'est organisé pour faire un peu de ménage et de réorganisation.
Ça,
et là, maintenant, on va regarder.
Pour que ça, oui, c'est ça, on verra ce que ça donnera. Mais effectivement, ça y est, on est parti sur la discussion politique. J'ai rien contre, absolument rien contre. J'allais dire effectivement que cette fois-ci, la plupart des gens que je connais, moi, m'ont dit que devant leur bulletin de vote, ils étaient encore perplexes. Dans le sens que c'est une campagne, on le dit assez souvent, qui était de toute façon la première en 40 ans où il n'était pas question de la question nationale, où est-ce que les enjeux étaient comme du saupoudrage. Enfin, bref, on ne va pas juste...
Mais il n'y avait pas... C'était pas basé sur une opinion qu'on se faisait autour d'un enjeu.
Non, c'était du saupoudrage
de promesses. C'était pas contre la séparation.
Non, c'était du saupoudrage de promesses.
C'était les personnes. Soit la personnalité de Legault, soit Manon, soit...
Et le résultat, c'est qu'à la veille de l'élection, 40% des gens n'avaient pas encore d'opinion. Et ça, c'est spécial.
C'est très spécial, en effet. Bon, revenons donc, effectivement, un petit peu aux médias sociaux avant d'aller à la pause et avant aussi de passer la parole à nos auditeurs qui pourront participer à cette discussion sur l'opinion des autres. Médias sociaux, donc, on écrit un truc et puis en 5 minutes, on peut avoir 50 réactions. Parfois très négative, parfois très méchante aussi.
Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi on écrit. Hein? D'habitude, on n'écrit pas toujours tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, mais souvent, on va écrire parce qu'on est fâché, on veut s'exprimer et on veut que ça soit renforcé par les autres. D'ailleurs, on sait que la sélection qu'on fait de nos amis, des gens qu'on suit, c'est habituellement des gens qui vont penser comme nous. Donc, progressivement, vous vous faites un cercle qui pense la même chose. Alors, vous postez quelque chose et là, c'est renforcé. Donc, vous avez l'impression que c'est très brillant ce que vous avez mis parce que la plupart de vos amis vont vous dire « oui, je suis d'accord » et puis pousser dans ce sens-là.
Ouais.
C'est pas un milieu dans lequel, enfin, c'est pas un espace dans lequel on cherche à faire contredire ses opinions ou à réfléchir, c'est plutôt on les cherche à les faire confirmer.
Mmh. Ouais. Geneviève Saint-Germain, dans le milieu dans lequel on évolue, vous comme moi, c'est sûr qu'on peut être parfois sensible à certaines réactions du public. On se met le cœur au micro, le cœur à la caméra, et puis ça peut être parfois difficile.
Il y a des métiers, comme tous les métiers, qui ont besoin d'avoir du public pour que les gens puissent gagner leur vie, où on est extrêmement vulnérable à ça. Les gens qui font de la télé, certaines vedettes. Les artistes, c'est une autre affaire, mais même à ça, c'est des gens qui gagnent leur vie sur l'opinion des autres, à quelque part. Il faut que l'opinion soit favorable, idéalement. C'est des métiers où les gens sont très vulnérables.
Et Patrick, les médias sociaux, est-ce que vous, ça a tendance à vous remuer un petit peu ou pas du tout? Parce que vous êtes comme éditeur et rédacteur.
Je publie de l'information.
Oui, mais justement, on réagit.
Oui, mais l'information, la plupart du temps, elle a été vérifiée parce qu'on a des journalistes professionnels qui vérifient les infos avant de les publier. Puis on publie aussi des textes qui viennent des agences de presse qui la plupart du temps sont tout à fait authentiques. Mais je pense qu'effectivement, on voit que les gens sont hyper sensibles sur les sujets controversés, comme la question du voile avec les enseignants. Là-dessus, ça va déraper. Même nous, au niveau de la gestion, la modération des commentaires, c'est un très, très gros défi depuis la Charte des valeurs, je dirais, en 2012.
C'est drôle, à partir du sujet de ce matin, j'ai l'impression qu'on pourrait aller sur plein de... Tantôt, on était sur la campagne, on pourrait aller vers le voile, on pourrait aller... Et c'est sans fin. Mais on va s'arrêter pour la pause. Et au retour, chers auditeurs du 98.5, puisqu'à cette heure-ci, on est diffusé dans le réseau du Grand Montréal, 98.5 FM, je vous invite à nous téléphoner au 514-790-9850. Et si vous appelez de l'extérieur, puisque vous pouvez nous écouter sur le web, bien sûr, n'importe où dans le monde, 1-866-790-9850. Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous quand vient le temps de prendre une décision? Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous quand vient le temps de prendre une décision? Mes invités, Bernard Motulski, titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, Geneviève Saint-Germain, journaliste et auteur, Patrick White, éditeur et rédacteur en chef du Huffington Post, Québec. Jusqu'à maintenant, ce qui ressort de cette première partie de l'émission, c'est que, en fait, oui, dans certains cas, ça dépend de l'opinion de qui et ça dépend du lien qu'on a avec cette personne. On a un appel. Est-ce qu'on peut prendre un appel tout de suite? Non, pas tout de suite encore. Tiens, justement, je me disais, parce que moi, j'aime toujours quand on peut aider ne serait-ce qu'une personne. Comment vous prenez vos décisions? Je parle d'une décision difficile. Là. Je ne parle pas de qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner. Là. Mais vraiment, une décision difficile, vous consultez un petit peu. Mais au fond, c'est soi-même qu'on écoute, non?
Oui, bien, on va consulter les gens aussi dont on sait qu'ils ne nous donneront pas leur avis. C'est-à-dire qu'ils vont nous aider à voir clair. C'est souvent ce qu'on recherche et ce qui est plus intéressant. C'est d'essayer de trouver quelqu'un qui nous aide à penser, qui nous aide à trouver la solution, mais pas quelqu'un qui nous dira, écoute, là, ouais, tu devrais changer de job, tu prends là la job.
Donc, ça prend une bienveillance de départ, que la personne veut votre bien.
Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la personne ne soit pas en train de se projeter et puis de dire ce qu'elle ferait à votre place, mais de vous aider à réfléchir et à pouvoir prendre la décision avec laquelle vous allez vivre après.
Mais ultimement, je pense qu'il y a deux types de manières de prendre des décisions. Une manière rationnelle, comme ça, on écoute les opinions, on fait des listes, ça pour ça, pour ça pour ça. Mais ultimement, les décisions qu'on prend, on les prend avec notre cœur, avec
seul
notre instinct.
Et seul.
Si on s'écoute, si on a appris à s'écouter, justement, et si on n'est pas si perméable aux opinions de tout un chacun, parce que des décisions prises à partir du cœur ou de l'instinct, ou appelons ça comme on veut, les opinions n'ont rien à voir là-dedans.
Non, puis je dirais plus que ça, même on les regrette à peu près jamais, parce que peu importe, de toute façon, choisir, c'est renoncer. Patrick White.
Moi, je me fais une petite liste pour et contre, et je regarde si j'ai 9 coches pour et 8 contre, ben, je vais y aller avec le pour. Je fonctionne comme ça depuis l'adolescence.
Mais ça
et c'est mon père
c'est bon.
M'a amené à prendre ces décisions-là parce que je ne savais pas où aller à l'université. Et comme j'étais en sciences humaines, c'était très, très large. Les sciences humaines, à l'époque, c'était un peu n'importe quoi. Et je te dis qu'avoir cette espèce de petite grille-là, je regarde le programme de journaliste, de littérature, de psycho. Bon, la psycho, ça nous amène au doctorat. Non, on coche. Je regarde les programmes de littérature. OK, les emplois reliés à ça. Pas sûr. Finalement, journalisme, mais ça a servi 28 ans plus tard. Mais effectivement, l'introspection et ces conseils-là, par exemple, de mon père, qui m'ont permis d'avoir ces grilles-là, le pour et le contre, pour chaque grande décision.
Excellent. Là-dessus, Jocelyn est au téléphone. Bonjour, Jocelyn.
Bonjour à vous tous.
L'opinion des autres, qu'est-ce que vous en faites?
À un certain degré, là, j'en tiens compte beaucoup, parce que moi, ce que je fais un peu comme... je vais vous donner un exemple. Quand je veux faire réparer ma voiture, je vais aller voir plusieurs mécaniciens pour avoir un avis différent. Je fais la même chose au niveau de l'information. J'écoute différentes informations. À partir de là, ça devient plus une opinion, ça devient un fait, quand c'est confirmé par des études, etc. La chose que je remarque, c'est que souvent, les gens vont avoir une opinion, mais ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Là, si j'écoute les stations de radio que j'écoute beaucoup, surtout votre émission, là, 90% des gens qui appellent des immigrants qui viennent de d'autres pays, 90%, ils comprennent pas pourquoi nous autres au Québec, on n'est pas plus sûrs par rapport à la loi qu'on veut voter sur l'immigration. Le 10% qui reste, là, c'est des gens qui ont manifesté en fin de semaine, donc ce qu'on appelle des extrémistes. Puis on le voit dans d'autres pays, en Belgique, qu'on parlait tantôt à la radio, dans d'autres pays où ils ont réussi, autrement dit, à renverser certaines lois, certaines... oui. culture qui existait depuis longtemps.
Oui. Mais là, ce matin, on parle plus de comment vous vous laissez influencer ou pas par les autres et non pas d'une opinion particulière sur une chose. Alors, Jocelyn, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser mes invités réagir.
Ben, il y a toute la question de la désinformation. Hein. Avec l'élection du récent gouvernement, on a lu en Europe que c'est un gouvernement anti-immigration et que la CAQ était l'extrême droite. Ça a quand même été repris par un grand nombre de magazines, dont Le Point à Paris.
Et Marine Le Pen félicité.
À la base, ces dépêches-là.
Il n'a pas tellement aimé ça, M. Legault.
Il y a de la désinformation là-dedans.
Ben ouais, absolument. Bernard?
Moi, je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la démarche qu'on utilise. Parce que c'est vrai que c'est viscéral d'abord. Mais le fait de se promener et puis de poser des questions, ça va nous aider à confirmer si notre sentiment, on le renforce ou si on peut se mettre à en douter. Donc, c'est un peu comme un parcours. Hein. Vous commencez par dire ça, j'aimerais ça.
Ouais.
Là, vous allez poser des questions à des gens qui vont vous aider à faire l'analyse, au fond, dont Patrick parlait, là, pour contre, c'est quoi. Puis, en bout de piste, vous allez sans doute décider. Moi, ça me fait penser, comme souvent quand j'ai des discussions avec mes enfants qui me demandent quelque chose. Mes enfants sont des adultes. Hein. Alors, ils cherchent à avoir une façon de voir, mais en bout de piste, ils vont prendre la décision qu'eux avaient déjà décidé. Ils seront pas influencés.
Mais parfois, effectivement, ça aide de se faire rappeler par des gens qui nous connaissent bien. Mais souviens-toi, quand tu as fait ça la dernière fois, il y a telle chose que tu n'as pas aimé. Oui, mais là, peut-être que bon. Mais ça m'est arrivé, moi aussi, de me faire rappeler des choses comme ça puis de me dire, ouais, dans le fond, je pense qu'effectivement, si je faisais des petites colonnes, moi aussi, comme Patrick, ça ressortirait que je suis peut-être mieux de. Mon cœur a le goût d'y aller, mais ma tête devrait dire non, ou le contraire. Oui, Geneviève.
Non, mais je pense qu'ultimement, les gens prennent la décision d'une manière viscérale.
Oui, je le pense aussi. Guillaume, au téléphone, a envie de se joindre à la conversation. Guillaume, est-ce que pour vous, l'opinion des autres, c'est important?
Oui, très. Ben, ça a été très important pour la majeure partie de ma vie, en fait. Bonjour les invités, on passe.
Bonjour à vous.
Bonjour.
J'ai subi un gros accident de travail il y a 7 ans qui m'a fait passer de personne hyper performante à quelqu'un qui a besoin des autres, autant physiquement que psychologiquement. Et puis, cet événement-là m'a fait m'apercevoir que toute ma vie, moi, je m'étais beaucoup soucié des autres. Je suis quelqu'un de très empathique. Donc, invariablement, ce que les autres vont me dire va finir par m'atteindre, va finir par me faire soit changer d'idée ou soit, au contraire, affirmer ma position. Mais il y a une autre chose que je pense qu'il est importante dans tout ça, c'est la réflexion. C'est qu'aujourd'hui, avec la vitesse que tout va, je pense que les gens n'ont plus le temps de bien réfléchir. Donc, ils ne pourront pas, prendre une bonne décision par rapport au jugement que les gens vont leur dire. Moi, maintenant, je ne travaille plus. J'ai le temps de penser. Je passe beaucoup de temps couché, mais sans dormir. Donc, c'est ce qui fait que quand quelqu'un va me dire, peu importe le sujet, va me passer un certain commentaire, ça va faire son chemin.
OK. Je vais laisser Bernard Motulski réagir depuis tout à l'heure qu'il a une grande envie de parler.
ce que monsieur dit, ça me fait penser au fait aussi que, il me semble, parfois, on demande son avis à quelqu'un parce qu'on a une décision difficile à prendre. Donc, on ne sait pas quoi faire. Et là, on se décharge du poids de la responsabilité. Souvent, on va faire ça avec son conjoint. Et puis finalement, comme ça, on sait qu'on va pouvoir lui reprocher.
Ben voilà, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Oui.
Ça fait partie du mécanisme, je pense, qu'on a pour essayer dire, je ne veux pas juste, moi, assumer la charge prendre une décision.
Ça, on appelle ça lâche.
C'est tordu.
On l'est pas mal de temps.
Parce que les femmes sont plus courageuses. Je vais pas partir de débat ici. Mais,
ça dépend à qui.
Ben oui. Ce que le monsieur disait, tu sais, lui, il passe maintenant plus de temps couché, il a le temps. Je pense que les opinions des uns et des autres ne résistent pas beaucoup à la réflexion.
J'allais dire, effectivement.
Dans le fond, là, ce que Pierre Jean-Jacques peut bien penser. Puis plus on vieillit, je pense. Puis surtout, plus on sait qui on est. ce que les autres peuvent bien japper autour de nous, même s'ils sont bienveillants, mais parce qu'on peut, puis on peut toujours aussi regarder l'intention, parce que les gens qui nous donnent des opinions ont toutes sortes d'intentions, des bienveillantes, puis il y en a d'autres aussi. Quand on sait qui on est, on peut pas.
Et l'auditeur avait un très bon point sur la rapidité de l'information, ouais, qui ben souvent ouais. se dément en dedans de 5-10 minutes. Donc, le flux d'information aujourd'hui, tu sais, à l'époque, tu avais le journal Le Soleil qui rentrait.
Le téléjournal à 22h30, un seul national.
On est bombardé d'informations et je pense que pour les gens, c'est de plus en plus difficile de prendre des décisions en conséquence.
Mais monsieur a le temps de réfléchir, c'est bien.
Oui. Ça, c'est formidable. J'allais dire, moi, revenons quelques instants sur cette campagne électorale. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'être aussi inondé d'informations jour et nuit. J'ouvrais Facebook, c'était sur l'élection. J'allais tweeter, c'était l'élection. J'ouvre les réseaux, c'était juste l'élection presque tout le temps.
Pour voir quoi? RDI, pour voir Jean-François Lisée faire des sandwichs, puis un autre avec son groupe de supporters faire des sourires idiots.
Puis à un moment donné, après 2-3 semaines, t'en viens à te demander, OK, à t'es peu, là, qu'est-ce qu'ils disent? Là, c'est quelles sont les promesses importantes? Puis tu le sais plus parce qu'il y en a trop.
Ce qui s'est passé beaucoup dans la campagne, c'est ce sont souvent des anecdotes ou des éléments qui sont
des candidats. Scandales
ou des problèmes comme ça.
C'est ce qu'on retient de la campagne.
Ben, c'est ça, parce qu'on est, fatigué, on est tanné de voir des choses qui nous apparaissent un peu banales. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on est tous excités, à commencer par les journalistes, mais nous aussi. Et on va...
On fait du chemin avec ça.
Ça occupe l'espace, ça distrait un peu. Ça ne nous aide pas forcément à prendre une décision.
En termes d'opinion, moi, je me disais, si Gertrude Bourdon gagne... C'est comme ça va parler des gens, ça va dire des choses sur les gens, elle n'a pas gagné.
Elle fit troisième.
À quelque part, l'opinion. Les gens se sont fait une opinion sur cette personne, avec son magasinage, avec son hésitation, avec le fait qu'elle n'avait jamais milité pour aucun parti, puis là, tout d'un coup, elle arrive là, puis les gens ont dit non.
Vers deux partis d'un coup. Fous,
c'est ça. Ouais. Ça a été fini.
Ça, les Québécois n'aiment pas ça.
Non. Personne n'aime ça. Ouais. Je veux dire, c'est autant dans la vie politique que dans la vie privée.
Surtout dans politique, on espère trouver des gens qui ont une opinion profonde.
Ben oui, zéro conviction.
On doit s'arrêter au moment où tout le monde a envie de parler, mais on revient tout de suite après la pause. Je vous redonne le numéro de téléphone 514-790-9850 1-866-790-9850. Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous quand vient le temps de prendre une décision importante? Quand vous avez une décision à prendre, est-ce que vous allez chercher l'opinion des autres? Est-ce que vous vous débrouillez tout seul? Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous quand vient le temps de prendre ces décisions importantes? Avec moi, en studio, Bernard Motulski, titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, Geneviève Saint-Germain, journaliste et auteur, et Patrick White, éditeur et rédacteur en chef Huffington Post Québec. On va prendre l'appel de Mackenzie. Mackenzie, bonjour.
Bonjour.
Alors?
Oui. dans le fond, moi, je dis que ça dépend. Ça dépend parce que moi, quelque chose que j'entends souvent, c'est moi, j'habite encore chez mes parents. Puis quelque chose que j'entends souvent, c'est t'es encore chez tes parents. Puis oui, je l'entends souvent, mais je dois dire que si c'est de façon constructive, oui, on peut écouter ce que les autres disent, mais sinon, comme je vous dis, moi, on me dit toujours que je suis mes parents. Mais moi,
quel âge avez-vous, Mackenzie?
28.
Okay. Attention, Geneviève va vous donner son opinion.
Non,
là.
Non.
Mais est-ce que vous avez hâte de partir? Avez-vous hâte de partir? Puis est-ce que vos amis proches que vous aimez beaucoup, là, vous incitent à partir?
Ben, la part, c'est que nous, les immigrants, on part de chez nos parents assez tard.
Pour se marier.
Mais, ouais, exactement. Fait que il y en a qui me disent, j'ai des amis québécois, puis ils me disent, t'es encore chez tes parents, moi, je suis parti à 16 ans, 18 ans, tout le kit. Mais sauf que moi, dans le fond, c'est que j'habite chez mes parents, mais je veux me faire bâtir ma maison, puis tout le kit, je veux pas... Tu sais, j'ai des buts plus loin. Fait que les personnes qui me disent, tu devrais déménager, t'es encore chez tes parents, ça, c'est... Ça me passe par-dessus la tête. C'est
OK. Parce que vous, dans le fond, ce que vous voulez, c'est être chez vos parents le plus longtemps possible pour avoir des sous, puis économiser, etc. Mais ça, vous avez la chance de pouvoir le faire en un sens. C'est pas tous les parents qui peuvent accueillir les enfants si longtemps. Merci beaucoup de votre appel, Mackenzie. Toute évidence, l'opinion des autres ne le dérange pas.
C'est ça. C'est un bel exemple où le rationnel l'emporte sur l'opinion. 26 ans, là, ça commence à être plus âgé.
28.
À 16 ans, c'est plus... À 16 ans, 18 ans, on va être plus influencé.
Un peu plus malléable. Comme disait Patrick, c'est normal quand on est jeune. Ouais.
Alors, plus on avance, plus on est capable de prendre des décisions qui sont basées sur une analyse. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est moi, j'ai avantage.
Plus on se connaît, plus on est formé intérieurement.
Une phrase de toi, Geneviève, je me permets de te tutoyer, dans ce que m'a si merveilleusement préparé le recherchiste. Quand on a fait beaucoup de travail sur soi, l'opinion des autres compte moins. Et c'est vrai que quand on apprend à se connaître, que ce soit en faisant des thérapies, en faisant une réflexion, en faisant de la méditation.
Ben oui, quand on connaît vraiment ses besoins, qui on est, les choses qui nous rendent heureuses ou malheureuses, ou quand c'est assez clair, puis le type de personne qu'on est, puis comment on réagit à telle situation. Quand même que Pierre Jean-Jacques, on va écouter des gens proches, des gens qui veulent vraiment notre bien, pas pour l'avoir eux-mêmes, là, mais des gens qui veulent vraiment notre bien.
Ouais.
On ne peut les compter
et
sur les doigts d'une main.
C'est à ce moment-là qu'on fait le ménage dans nos amis. Hein. Souvent dans la fin vingtaine, début trentaine.
Moi, ça a été trentaine, quarantaine.
Fin trentaine, début quarantaine. C'est processus continu. Mais on fait le ménage des gens qui nous bouffent de l'énergie, qui sont toxiques à la base.
En effet. Bernard, puis ensuite un autre appel. Oui.
Ben, il faut juste faire attention. Il faut aussi garder... Parce que écouter l'opinion des autres, c'est pas forcément uniquement pour se faire influencer, c'est aussi pour savoir ce qu'il y a des gens qui pensent. Alors, moi, je sais que dans mes amis Facebook, par exemple, je regarde beaucoup de gens qui ont des opinions qui sont pas du tout les miennes et qui sont pas des gens qui vont m'influencer, mais j'ai besoin de savoir ce que les gens pensent.
Des fois, c'est surprenant. Fois, c'est très surprenant.
C'est pas du tout pour influencer une décision personnelle, mais savoir dans quel monde on vit, puis c'est important.
Élargir notre schéma de pensée.
Absolument. Jonathan au téléphone. Salut, Jonathan.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, je suis dans une situation un peu différente. J'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois de ça. Et je vous dirais que depuis ce temps, je suis inondé d'opinions de gens, que ce soit des proches, que ce soit des professionnels, que ce soit des gens qui aimeraient faire partie de l'aventure. Puis ce que je me rends compte, moi, avec le temps, c'est que ça demande énormément de sagesse. D'être capable de bien identifier quelle opinion on doit retenir versus une opinion doit être mise de côté. Mais en même temps, on doit toujours garder aussi le cap sur c'est quoi son idée d'entreprise et pourquoi on voulait la démarrer. Pour moi, c'était une courbe d'apprentissage, puis je crois qu'elle va rester aussi avec le temps. Mais c'est un des éléments là, qui, pour moi, un auditeur qui parlait un peu plus tôt, là, qui disait, bon oui, il faut prendre en considération qu'est-ce qu'il y en a, mais quand on a une idée en tête, on doit aller de l'avant. Moi, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je vis présentement. Donc, oui, ça compte. L'élément de réflexion ou de prendre le temps de bien réfléchir, sans être nécessairement parce qu'on est alité ou on peut pas nécessairement vaguer à nos occupations comme on fait dans le passé. Mm-hmm. Mais vraiment prendre le temps de prendre un recul des fois puis de réfléchir, de prendre en considération ce qu'on nous dit, mais en même temps, de bien les arriver. Donc, moi, c'est un peu ça que j'ai pour
en faire. Excellent. Merci beaucoup, Jonathan. Une chose me frappe, je n'ai pas demandé l'âge de Jonathan, mais je dis de toute évidence, par sa voix, ce n'est pas quelqu'un de très, très vieux. Est-ce que j'exagère en disant que souvent, les jeunes, justement, on les inonde de conseils?
Non sollicité, souvent.
Oui, c'est ça. Puis comme si lui dit que j'ai lancé ma propre entreprise, puis là, je suis inondé d'opinions de tout le monde.
Bien, c'est sûr que du haut de... d'un certain nombre d'années, on veut essayer de conseiller puis d'éviter aux jeunes de faire les erreurs.
On voudrait pas qu'ils se fassent mal, voilà.
Alors qu'il faut qu'ils les fassent, comme peu comme tout le monde. Ouais. Donc, au fond, c'est la différence aussi, je pense, et puis ce qu'il nous disait, c'est de savoir reconnaître une opinion éclairée. C'est-à-dire une opinion qu'on reçoit, mais dans laquelle il y a des éléments qui nous permettent de savoir sur quoi est basée cette opinion. Et par rapport à, moi, ce que j'appelle les yakas, tu sais, les gens qui disent « il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça » et qui savent exactement comment on doit faire les choses.
Toutes les recettes.
Mais c'est du gérant d'estrade parfait quand vous avez la responsabilité d'une entreprise.
Mais des fois, ils sont bien intentionnés aussi, ces gens-là.
C'est toujours bien intentionné. Mais
presque,
malheureusement,
presque toujours.
Et pour bien des gens, c'est dur de dire non. Et dans ce contexte-là où tu lances ton entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, des gens influençables qui ont beaucoup de difficultés à dire non. Surtout à leurs proches.
J'ai fait 15 ans d'entrevues de fond avec des artistes et des politiciens, des gens. Et la question que j'ai souvent posée, c'était quelle est la chose la plus difficile pour vous? Et la réponse était à peu près tout le temps, c'est d'apprendre à dire non. Pourquoi c'est si difficile?
C'est apprendre à mettre ses limites. C'est pas juste non. C'est ses limites. C'est un statement. C'est se faire. C'est même pas se faire respecter. Non. C'est apprendre à mettre ses limites. C'est
les gens le sentent.
Oui, les gens le sentent. Oui. Et plus tu mets tes limites, moins il y a des gens qui essaient de t'abuser, ou je dis abuser au sens large, là, ou qui essaient de te manipuler. C'est une énergie à mettre ses limites.
Ben, on essaye le plus souvent d'être poli, d'être gentil, de ne pas s'antagoniser. Les autres, si on a un non franc et brutal, ça risque de créer une difficulté dans la relation. Alors, il y a des façons de dire non aussi.
Mais s'il y a un non têteux aussi, là, ce genre de non têteux que tu sais que tu peux jouer dedans, là, ça aide pas non plus. Là.
Ouais.
Non, c'est des non, même il y avait des explications, puis des.
Ouais.
C'est bon. C'est parce que c'est on peut
des
dire,
oui.
On peut faire
oui.
Ça, mais on peut dire aussi oui, mais.
Ouais.
C'est une autre façon pour essayer de garder une bonne relation. Ouais. Oui, mais et finalement la réponse qu'on voulait donner, en fait, c'est non, mais
puis,
on
puis
a
dans,
commencé.
Puis dans certains cas, faut aussi dire à la personne, garde, écoute, on en a assez parlé. Là, j'ai plus besoin. C'est pas que je veux plus ton opinion, c'est que là, il faut que je me décide. Patrick, quelque chose à dire.
On redevient l'ADN du Québécois qui veut pas la chicane.
Ça, je vais y revenir après la pause parce qu'on a un appel de Madeleine et justement, j'allais dire, et qu'on n'aime pas la chicane, les Québécois. Et c'est tellement vrai. Madeleine, à vous la parole.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, en fait, oui, j'aime l'opinion des gens. Mais pas nécessairement pour m'influencer, mais c'est plutôt pour savoir leurs connaissances qui peuvent m'éclairer dans ma décision. Ça, je trouve ça intéressant.
Avez-vous un exemple à nous donner?
Non, je n'ai pas d'exemple là à brûle pour point, mais je sais que ça peut être sur le plan politique ou sur n'importe quelle place. Ils me disent, par exemple, un fait qui est déterminant. Là, ça peut me permettre de voir plus clair. Mais normalement, quand je prends une décision, j'essaie de la prendre la plus éclairée possible.
Alors, excellent. Excellent. Merci beaucoup, Madeleine. Oui, Bernard Motulski.
Des exemples d'opinion, on en a à la tonne. Quoi regarder sur Netflix? Quelle série? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Le film?
Ça marche sur l'off-post, c'est incroyable. Les gens ont besoin du conseil des off-post. Bon. Les séries, les restaurants, les voyages. Les gens font beaucoup confiance à leur réseau d'amis. Facebook est en fait un réseau de connaissances plus que d'amis.
Mais aussi au classement, même quand ça sort des amis, les Airbnb, les TripAdvisor et tout.
Au point
de vue phénoménal.
Alors que dans certains cas, c'est faux. Dans certains cas, c'est la personne propriétaire du Airbnb qui a demandé à ses amis d'écrire des trucs. TripAdvisor, même chose. Il faut faire attention.
Moi, je suis absolument imperméable à ça. J'ai toujours l'impression que c'est des scams. Puis je me dis aussi, j'aime tellement pas la même chose que tout le monde que quand même que 80% des gens pensent ça.
Mais on se fait influencer quand même le nombre d'étoiles qu'on va voir pour
ça nous influence.
Ça a toujours été donné, c'est de l'opinion d'autres personnes, même si on pense juste les étoiles du Michelin, très prestigieuses, mais c'est des êtres humains qui mettent ces étoiles-là.
Voilà.
Donc c'est l'opinion de quelqu'un, mais traduit.
Faillible,
mais organisé, structuré, avec une certaine crédibilité.
Et
ça
dans certains cas, avec des sous, avec bon. On connaît ça. On va s'arrêter le temps de la pause et au retour, justement, en quoi la peur de la chicane viscérale au Québec, chez beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, peut-elle nous rendre plus fragiles à l'opinion des autres? On s'arrête le temps de la pause. 514-790-9850 si vous voulez vous joindre à la discussion ou 1-866-790-9850. À tout de suite. Est-ce que l'opinion des autres compte pour vous quand vous prenez des décisions? Je vous ai promis qu'on parlerait de ça en dernière partie maintenant, au retour de cette pause. Le Québécois moyen, dit Patrick White, n'aime pas la chicane. C'est vrai. Comparativement à d'autres cultures, les Français peuvent s'engueuler pendant tout un repas, puis après ils s'embrassent, puis ils se retrouvent le lendemain avec plaisir et bonheur. Et chez nous, c'est combien de Québécois disent pas de politique, pas de religion à table?
C'est dommage.
Parce que ça va gâcher le repas. Okay.
Dommage.
Donc,
prendriez-vous un peu de patate? Ça va toujours bien.
Ouais.
Dans un repas. Dès qu'il y a un sujet d'un peu... Prendriez-vous un peu de patate?
Oui, c'est ça, pour calmer les esprits. Ouais. Surtout que les patates, c'est calmant. Bernard Motulski, pourquoi? Parce que ça aussi, ça vient jouer dans notre façon de se préoccuper. C'est une façon de se préoccuper de l'opinion de l'autre que de ne pas vouloir exprimer la sienne, de peur que ça fasse une chicane.
Moi, ce que ça me fait penser, c'est un peu de la psychologie à petite semaine, mais aux origines normandes. Puis on
ah, c'est vrai, peut-être bien, oui, peut-être bien, non.
Mais alors, les Normands, ils vont jamais se prononcer. Ils vont jamais se prononcer, mais en même temps, ils sont connus pour être les pires devant les tribunaux. Ils sont toujours devant les tribunaux, ils sont toujours en train de se poursuivre les uns les autres. Alors, il y a une contradiction.
Il y a une dichotomie totale,
on veut pas manifester son opinion, mais on l'a quand même, on la garde pour nous. Alors, on n'aime pas la chicane. C'est-à-dire, on n'aime pas se chicaner avec des cris, comme vous le disiez, comme les Français, comme les Italiens.
Ah, oui, ça sort. Puis après, on s'embrasse, puis
on se dit à la prochaine chicane.
Quelle belle soirée!
Mais ça n'empêche qu'on a des divergences quand même profondes.
Absolument.
Et qu'on, là, je m'excuse de revenir là-dessus, mais qu'on voit qu'ils sortent souvent en période électorale, où là, on est comme un peu obligé de se commettre. Au moins, les partis doivent se commettre parce qu'ils partent en chicane. Alors, ça fait partie, je pense, de
mais
nos contradictions.
Aussi...
On tient compte.
Ouais.
On a des opinions, mais on va faire attention avant de les émettre pour être sûr que on va gagner si on réussit à le mettre de l'avant.
C'est de la peur, en fait. C'est de la peur.
Oui, c'est de la peur.
C'est de la peur, puis c'est effectivement, c'est des contradictions. Ce qu'on ne dit pas en pleine face, on le dit en arrière. Et puis aussi, quand tout ça se met à bouillir, là, ça sort des affaires encore pires, des paroles qui se rattrapent plus, ouais. Des choses blessantes pour le reste de la vie. Ouais. Je veux dire, on est un peu, on fait un peu, je nous trouve un peu ados, tiens, je vais dire ça comme ça.
J'avoue que effectivement, écoutez, je suis obligée de, ben pas obligée, mais je veux faire la place aux gens du public. On va prendre un dernier appel. C'est Jolène qui a eu la patience d'attendre tout ce temps-là au téléphone depuis quelques minutes. Jolène, on vous écoute.
Bonjour, bon matin à vous tous.
Oui, merci.
Moi, l'opinion des autres, j'en prends et j'en laisse. Je vous dirais que je suis la mieux placée pour savoir ce qui est mieux pour moi. Moi, je suis à mon compte, un petit exemple en passant, je suis à mon compte dans l'entretien ménager résidentiel. Et puis, on s'entend que la société veut tous qu'on ait des immenses métiers ultra payants. Mais moi, je l'aime, mon travail. Ils font de pension ou pas. Souvent, les gens vont me dire, ouais, mais je l'aime, tu sais, tu penses à ton avenir. Oui, je pense à mon avenir. Je pense que je me connais assez bien pour savoir que je l'aime, ma job. Je suis pas obligée de me fier aux autres qui ont fait 60 ans d'études pour d'être heureux. Moi, c'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Donc, oui, parfois, ça porte à confusion pour les gens, mais je respecte ça. Sauf que moi, mon opinion à moi, c'est que je suis très heureuse dans ce que je fais. Et ce que les autres en pensent, ben ça les regarde.
C'est ça. Moi, ce que les autres en pensent, c'est de leurs affaires. C'est pas de... hein? C'est... Moi, j'aime bien cette phrase-là. On s'approche de la conclusion. Ce que les autres pensent de moi, c'est pas de mes affaires. Sauf, effectivement, quand c'est un bon ami qui nous dit un conseil. Mais encore là, il faut que ça soit constructif. Juste un truc genre t'es comme ci ou t'es comme ça, ça donne rien. Patrick White, mais...
pas s'empêcher de vivre pour les autres. Hein? Je pense que c'est ça, là, son message. L'entretien ménager, Dieu, qu'on a besoin de gens pour l'entretien ménager aujourd'hui, plus que jamais avec nos vies.
Pierre, ça correspond à ses besoins. Pierre, ça correspond à ses besoins. Dis-moi, je suis heureuse comme ça. Mais ce que les autres peuvent penser, est-ce qu'on s'en fout? Surtout quand t'es heureux. Ben, quand t'es malheureux, puis t'es triste, puis
tu n'en as pas. Pense-y comme fou, Geneviève, en plus, quand tu fais de l'entretien ménager, un, t'as des résultats tout de suite, donc c'est très bon pour le psyché.
C'est gratifiant.
Et deux, tu fais de l'exercice à longueur de journée, donc t'as même pas besoin de te payer un gym. C'est bête à dire, mais c'est vrai que c'est un métier.
Puis t'es toute seule. T'as pas besoin d'avoir toutes ces relations avec ses collègues.
C'est ça. Ouais. C'est la sainte paix. Alors voilà pour Jolène, effectivement, un appel. C'est très bien pour le dernier appel. Ça nous met sur une belle conclusion, je trouve.
Se faire confiance, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Se faire confiance.
Se faire confiance.
Ça s'apprend.
Oui.
Ça s'apprend.
C'est un exercice, en effet. Puis plus on vieillit, idéalement, plus on devrait se faire confiance. Mais bon.
Absolument. Absolument.
Ben effectivement, écouter trop les autres, c'est pas se faire confiance. C'est faire plus confiance à d'autres personnes. Oui, c'est un travail souvent de toute une vie que d'arriver à être de plus en plus affirmatif. Mais il faut pas non plus pour autant éliminer le fait qu'on a absolument besoin des autres. On vit à travers les autres. C'est les autres
Et on peut être de bons conseils pour eux aussi de temps en temps.
Quand c'est sollicité.
C'est tellement vrai aussi. Moi, j'allais dire aussi, parfois, c'est une prof de yoga qui m'avait dit ça. J'avais trouvé ça tellement intelligent parce que j'avais une décision à prendre et puis j'avais de la difficulté. Et j'avais confiance en elle. Puis Monet m'avait regardé et elle m'avait dit simplement, tu sais, tu peux ne pas décider aujourd'hui. C'est une décision, ça aussi. Décider de ne pas décider. C'est... Plutôt que de dire « je ne suis pas capable », ben, tu te dis « non, regarde, aujourd'hui, je ne décide pas, je laisse flotter encore une journée ou deux ». Il y a des façons, il y a toutes sortes de façons aussi.
S'entourer de gens qui veulent notre bien, tu en as parlé tout à l'heure, pour moi, c'est fondamental. Revenir à cette base-là.
une chose que tu disais, puis qu'on a pensé vite parce que ça peut avoir l'air ésotérique.
Il reste 30 secondes.
Mais la méditation. Méditation. Oui. Ça peut être la réflexion, ça peut être l'introspection, mais la méditation, ça claire les esprits, je le dis en clear, là, ça nettoie l'esprit.
Ça crée une distance. La distance face à ce qu'on vit.
Puis le vrai insight vient, la vraie chose vient.
Il y a un conseil que j'ai toujours gardé qui m'a été donné par une psychologue il y a bien des années. Au moment où j'étais très angoissé, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire.
Ça
aide aussi à regarder les choses dans une autre perspective. Oui. On s'aperçoit que finalement,
c'est
pas si tragique que ça.
C'est ça. Puis souvenons-nous que choisir, c'est renoncer. Donc, on peut pas choisir une chose puis avoir l'autre en même temps. Donc, tant pis pour
l'argent du beurre et le cul de la crémière.
On veut tout. On veut tout, tout, tout. On s'arrête le temps de la pause. Merci Bernard Motulski. Merci Geneviève Saint-Germain. Merci Patrick White. Au plaisir de vous retrouver tous les trois.
À la prochaine chicane.
À la prochaine chicane. Quelle belle discussion. À tout de suite.